Le journal, présenté par Stanislas Vazak.
Bonsoir. Londres expulse 23 diplomates russes après l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal. La première ministre britannique Theresa May veut aussi frapper Moscou au portefeuille. Les explications de Philippe Randé dans un instant. La crise politique en Slovaquie. Le premier ministre Robert Fico démissionne, emporté par le scandale de l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak. Nous ferons le point avec Alexis Rosenzweig. Il y a un an, jour pour jour, François Fillon a été mis en examen dans l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif concernant son épouse. La justice est allée vite, très vite, dans cette affaire qui allait coûter l'Élysée aux candidats de la droite. Nous en parlerons avec notre invité, l'avocat Hervé Léman, auteur d'un livre « Le procès Fillon » qui vient de sortir. Jusqu'où ira la crise diplomatique entre Londres et Moscou? Nouvelle escalade aujourd'hui avec l'annonce des premières sanctions britanniques contre la Russie, accusée d'être impliquée dans l'empoisonnement de l'ex-espion russe Sergueï Skripal à Salisbury. Devant la Chambre des communes, Theresa May a expliqué aujourd'hui pourquoi elle avait décidé d'expulser plusieurs diplomates russes. Philippe Randé, vous avez suivi le discours de la première ministre britannique.
Oui, une Theresa May très déterminée qui n'a pas mâché ses mots. Lundi dernier, elle avait jugé très probable que la Russie soit responsable de l'empoisonnement de Sergueï Skripal. Aujourd'hui, devant les députés, elle est allée plus loin. Il n'y a pas d'autre conclusion que celle selon laquelle l'État russe est coupable de la tentative de meurtre. Un verdict sans appel, donc, suivi d'une série de sanctions, avec notamment l'expulsion de 23 diplomates russes sur les 59 accrédités au Royaume-Uni. Des diplomates qui ont été identifiés comme des agents du renseignement non déclaré. Theresa May.
Ils ont une semaine pour partir. C'est l'expulsion de diplomates la plus importante depuis plus de 30 ans. C'est à cause du fait que ça n'est pas la première fois que l'État russe s'en prend à notre pays. Nous allons suspendre tous les contacts bilatéraux de haut niveau prévus entre le Royaume-Uni et la Russie. Ce qui veut dire qu'il n'y aura pas de participation des ministres ou des membres de la famille royale à la Coupe du monde de football cet été en Russie.
Theresa May qui a eu des mots particulièrement durs contre Vladimir Poutine, qui n'a pas répondu à sa demande d'explication sur cette affaire. Elle a regretté la voie tragique suivie par le président russe en matière de diplomatie. Londres qui a aussi promis de traquer les criminels et les élites corrompues. Il n'y a pas de place pour ces gens et pour leur argent dans notre pays, a conclu Theresa May.
Philippe Randé à Londres avec Eric Audra pour les moyens techniques. Merci. Le ministère russe des Affaires étrangères accuse ce soir Londres d'avoir fait le choix de la provocation. Nos mesures de riposte ne se feront pas attendre, à menacer Moscou. Le Royaume-Uni peut en tout cas compter sur le soutien de l'allié américain. La Russie est responsable, a affirmé ce soir à New York l'ambassadrice américaine à l'ONU, Nikki Haley. 10 jours après leur empoisonnement au Novichok, Sergueï Skripal et sa fille Yulia sont toujours dans un état jugé critique. En Slovaquie, l'assassinat du journaliste d'investigation Jan Kuciak et de sa compagne tourne à la crise politique. Le premier ministre Robert Fico annonce ce soir sa démission, démission qui était réclamée par l'opposition. Jan Kuciak enquêtait sur des liens présumés entre la mafia calabraise et des responsables politiques slovaques. En démissionnant, Robert Fico espère sauver la coalition au pouvoir à Bratislava. Les précisions d'Alexis Rosenzweig.
Après les grandes manifestations organisées à Bratislava, la démission de Robert Fico était un sujet âprement discuté dans une Slovaquie encore sous le choc du meurtre à bout portant du jeune journaliste et de sa fiancée fin février. L'article de Jan Kuciak, inachevé mais publié post-mortem, mettait en cause des personnalités très proches de Robert Fico, liées avec des hommes d'affaires italiens, membres présumés de la puissante mafia calabraise 'Ndrangheta. Le chef du gouvernement slovaque a d'abord fait démissionner ses conseillers très embarrassants, puis son ministre de l'Intérieur en début de semaine. Après 10 années passées au pouvoir, Robert Fico espérait bien résister à la vague d'indignation et de protestation. Après avoir posé à côté de liasses de billets promises pour toute information sur le crime, il a ensuite crié au complot international contre son gouvernement, un complot fomenté selon lui notamment par le chef de l'État Andrei Kiska et le milliardaire américain George Soros. Désormais, Robert Fico envisage donc de rester président du parti au pouvoir, en laissant un membre du gouvernement actuel devenir Premier ministre. Pas sûr que cela suffise. L'opposition et la presse sont en tout cas loin d'être convaincus, tandis que l'enquête policière n'a pas encore révélé d'indices sur les auteurs ou commanditaires du double homicide.
Alexis Rosenzweig, correspondant à Prague. En France, la grève continue à Mayotte, malgré les appels à la levée des barrages lancés hier soir par plusieurs responsables de l'intersyndicale. La rencontre avec la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, semblait avoir porté ses fruits. Le gouvernement avait pris pris un certain nombre d'engagements destinés à lutter contre l'insécurité et l'immigration clandestine qui pourrissent la vie des Mahorais. Mais ce matin, les responsables du mouvement ont dû faire face à la colère de la base. Ils ont donc durci le ton. On retrouve à Mayotte Sandrine Etoa-Andeg.
L'accord de principe n'aura pas duré 24 heures. L'ensemble des représentants de l'intersyndicale et du collectif des citoyens dénoncent ce soir l'exercice de communication, disent-ils, de la ministre des Outre-mer, Annick Girardin, qui s'est empressée, selon eux, d'annoncer un accord alors qu'il ne s'agissait que de propositions. La base s'est exprimée, elle n'en veut pas, répète Ahmed, qui installe des pneus sur le barrage de Tsararano, sur la côte est de Mayotte.
Le mouvement va se durcir en semaine, je pense. La grève continue, les barrages ne vont pas être levé parce qu'on n'a pas de réponse tout simplement de ce qu'on attend. On a l'impression qu'on nous méprise et on ne nous prend pas en considération.
Cet accord n'est pas valable car rien n'a été signé, insiste Zara. C'est la première fois que cette mère de famille qui porte le salouva, la tenue traditionnelle mahoraise, veille aussi tard. Elle ne conduit plus la nuit car elle a peur des agressions.
En fait, à chaque fois, on fait des promesses, mais on ne voit pas vraiment de réaction vive. Par exemple, nous envoyer l'escadron, oui, on veut bien, mais les voir agir. Donc, les délinquants, on veut les voir au fond du trou. Ils sont pris aujourd'hui et le lendemain, on les voit sur la route.
La contestation se poursuit et se durcit, répètent les manifestants. Certains entendent perturber la tenue du premier tour de l'élection législative partielle dimanche.
Sandrine Etoa-Andeg, envoyée spéciale de France Culture à Mayotte. C'était il y a tout juste un an, le 14 mars 2017, François Fillon était mis en examen pour détournement de fonds publics. Le candidat de la droite était rattrapé par la justice dans l'enquête sur des soupçons d'emploi fictif concernant son épouse Pénélope. Elle-même sera mise en examen quelques jours plus tard. Le 23 avril, François Fillon était éliminé de la course à l'Élysée en terminant troisième du premier tour. Le grand favori de la présidentielle n'aura pratiquement pas fait campagne sur son programme, tant cette campagne aura été rythmée par le feuilleton judiciaire du Penelope Gate. Invité de ce journal, Hervé Léman, avocat au barreau de Paris, ancien juge d'instruction. Bonsoir.
Bonsoir.
Alors, vous publiez aux éditions du Cerf le procès Fillon, un livre consacré à la manière dont la justice est emparée des soupçons d'emploi fictif concernant Penelope Fillon. Et vous expliquez notamment dans votre livre que la justice est allée très vite dans cette affaire. Le fait que la justice aille vite, c'est plutôt une bonne chose.
Oui, c'est une bonne chose, sauf quand c'est exceptionnel et que ça ne s'applique que pour le candidat de l'opposition. Mon précédent livre s'appelait « Justice, une lenteur coupable ». J'aurais pu appeler celui-ci « Justice, une rapidité suspecte ». Lorsque la justice va anormalement vite, va extrêmement vite, et que ça s'applique au principal candidat de l'opposition, c'est assez inquiétant.
Pourquoi anormalement vite ?
Eh bien parce que ça ne s'est jamais vu. On n'a jamais vu une affaire financière menée aussi rapidement. On n'a jamais vu entre l'article dans la presse du Canard enchaîné et la mise en examen un délai aussi court. C'est tout à fait exceptionnel. Vous voyez, pour les autres affaires qui ont éclaté, par exemple l'affaire de Monsieur Ferrand éclate dans le Canard enchaîné en mai 2017, il n'a toujours pas été convoqué par un juge d'instruction. Il l'est, je crois, dans les prochains jours. C'est-à-dire un délai de 10 mois qui est le délai habituel de fonctionnement de la justice dans ce type d'affaires. Là, la justice est allée incroyablement rapidement.
C'est le lendemain de l'article du Canard enchaîné que le parquet national financier se saisit de l'affaire.
Oui, c'est aussi quelque chose d'assez surprenant. Pourquoi est-ce que le parquet national financier, qui a été créé pour s'occuper des affaires, c'est ce que dit la loi, d'une grande complexité, se précipite sur cette affaire d'une grande simplicité, qui est de savoir si Pénélope Fillon a ou non travaillé aux côtés de son mari. Pourquoi est-ce que le parquet national financier s'est emparé de cette affaire alors que la loi ne prévoit normalement qu'il n'est pas censé s'occuper de ce type d'affaire ? C'est un dysfonctionnement.
Pourquoi cette affaire est simple selon vous ? Parce qu'il y a très peu d'acteurs finalement ?
Bah oui, on est dans une affaire qui est extrêmement simple. Est-ce que Madame Fillon a travaillé aux côtés de son mari ou pas ? C'est pas ce qu'on appelle une affaire d'une grande complexité. On n'a pas créé un parquet national financier spécialisé pour les affaires d'une grande complexité pour s'occuper de ce genre d'histoire.
Et là, en l'occurrence, la complexité ne vous apparaît absolument pas évidente.
Il n'y a aucune complexité, c'est une grande simplicité. Les affaires de grande complexité, c'est les affaires où vous avez des éléments internationaux, des sociétés, des mouvements suspects avec des comptes offshore ou que sais-je. Là, nous sommes dans une affaire qui est extrêmement simple. Il n'y a aucune raison juridique pour que le parquet national financier se saisisse de cette affaire.
Hervé Léman, vous revenez aussi sur les conséquences d'une mise en examen pour une personnalité politique. Pour vous, mise en examen vaut aujourd'hui pour l'opinion une sorte de condamnation ?
Oui, c'est un vrai problème de notre justice. La mise en examen, aujourd'hui, en France, équivaut à une condamnation. Il y a ce qu'on appelle la jurisprudence Balladur, un ministre mis en examen doit démissionner. Or, quelqu'un mis en examen, que ce soit un ministre ou pas un ministre, est quelqu'un qui est présumé innocent. La mise en examen, ce n'est qu'une étape dans le processus judiciaire. Mise en examen, ça veut dire qu'on est suspect. Voilà. Alors, un suspect, c'est pas quelqu'un qui est condamné. Et il y a beaucoup, je donne une petite liste dans mon livre, de personnalités politiques, ou pas politiques d'ailleurs, qui ont été mis en examen et qui ensuite ont bénéficié d'un non-lieu ou d'une relaxe. Donc ce système dans lequel on stigmatise quelqu'un en disant « il est mis en examen », il faut le mettre à l'écart de ses fonctions politiques, de responsabilité, parce qu'il a été mis en examen, c'est un système qui est extrêmement pervers et qui prend les choses à l'envers. C'est une inversion des valeurs. La réalité, c'est que quelqu'un qui est mis en examen est présumé innocent, et que par contre, quelqu'un qui est condamné, eh ben, est coupable, et il est condamné. Or, nous avons un système, une application du système inverse. Les personnes mises en examen sont considérées comme des coupables, et après ça, les gens qui ont été condamnés, on dit, oh, bon, ils ont payé, c'est fini, on n'en parle plus. C'est une inversion des valeurs. C'est pourquoi je crois qu'il faut que l'on supprime la mise en examen dans ce pays.
Oui, mais qu'est-ce qu'on fait par rapport à des gens sur lesquels pèsent des soupçons? Il faut tout de même qu'il y ait un statut judiciaire particulier.
Non, ce n'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir un statut judiciaire. Lorsque l'affaire est suivie selon une autre procédure que la procédure d'instruction, il n'y a pas de statut de mise en examen. Les gens sont poursuivis devant le tribunal, éventuellement, mais il n'y a pas ce statut hybride de mise en examen. C'est un statut, vous savez, autrefois on disait inculpé. Les personnes étaient inculpées. Puis on dirait, ah ben inculpé, c'est ennuyeux parce qu'il y a culpa, la faute dedans. Donc on va appeler ça mise en examen. Mais ça ne change rien au système. Vous êtes mis en examen, vous êtes condamné, vous êtes terminé.
Alors, dans son affaire, François Fillon a mis en cause la partialité des juges. Il a dénoncé une enquête à charge. Il a même parlé d'assassinat politique. Est-ce que, selon vous, il y a des preuves de cette partialité supposée des juges ?
Alors déjà, il faut faire la distinction entre les magistrats du parquet et les magistrats du siège. Je pense qu'il n'y a aucune partialité de la part du juge d'instruction qui a été désigné dans cette affaire. Mais je pense qu'il n'a pas été choisi au hasard. C'est-à-dire que l'on a volontairement choisi un juge d'instruction que vos collègues de la presse appellent le juge de fer. C'est-à-dire qu'on a choisi un juge très compétent, mais très dur, et qui professe que les hommes politiques doivent être traités comme les grands délinquants. Donc c'est un choix qui n'a pas été fait au hasard. Ensuite, ou avant, plus
exactement. Serge Tournay, en l'occurrence.
Exactement. Ensuite, ou plus exactement avant, le mécanisme de fonctionnement du parquet, et c'est différent, le parquet n'est pas indépendant dans notre pays. Le parquet est hiérarchisé aux gardes des Sceaux. Et toute la chaîne du parquet, c'est une chaîne dans laquelle, dans cette affaire, toutes les personnes qui sont là, sont des personnes qui ont été nommées par François Hollande et par Christiane Taubira. Et le moins que l'on puisse dire, c'est que toute la chaîne a agi avec une célérité qui ne pouvait que desservir François Fillon.
Mais de là à conclure qu'il y a une sorte de complot, il n'y a aucun élément objectif pour l'affirmer.
Non, c'est pas un complot. C'est pas un complot. C'est une succession d'influences, de mécanismes qui fait que l'on est arrivé au résultat que l'on voulait obtenir. C'est pas un complot. Ils sont pas, tous ces gens ne se sont pas réunis dans une salle pour dire voilà, on va faire comme ça, comme ci, comme ça. Mais tous les gens qui sont dans le processus judiciaire sont tous des gens qui ont été choisis par François Hollande et qui ont tous la même conviction par rapport à l'affaire Fillon. Et qui ont tous effectivement la même attitude qui est il faut aller vite. Il faut aller vite, il faut qu'il soit mis en examen avant l'élection présidentielle parce qu'on est sûr qu'il ne sera pas élu.
Hervé Lément, merci d'avoir été l'invité de France Culture ce soir. Je rappelle donc le titre de votre livre, Le procès Fillon, qui vient de paraître aux éditions du Cerf. S'il n'y avait qu'une star mondiale de la science, c'était bien lui. L'astrophysicien britannique Stephen Hawking est mort la nuit dernière à son domicile de Cambridge. Il avait 76 ans. Étienne Klein consacrera samedi sur France Culture son émission La conversation scientifique à la mort de Stephen Hawking. Émission en direct et en public au Salon du Livre de Paris. Ce sera de 16h à 17h samedi prochain. Un mot de la météo. Demain, grise et maussade sur presque tout le pays. Il pleuvra sur une large moitié est et il neigera en montagne. Les températures minimales seront douces, de 3 à 11 degrés du nord au sud. Les maximales iront de 9 à 18 degrés. C'est la fin de ce journal préparé ce soir avec Caroline Benetto.